tes oreilles, l'émission des GBU.
Bonjour et bienvenue dans tes oreilles, l'émission téléchargeable des GBU est probablement la meilleure émission du monde. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette seconde émission où nous allons encore parler de la Bible, du GBU, d'expériences vécues par plein de gens très très intéressants qui ont pour principal point commun de chercher grâce à Dieu à être équilibrés dans leurs relations avec les autres.
L'intitulé de l'émission d'aujourd'hui est « Ni assimilé ni sectaire, avoir de relations équilibrées ». Et on commence tout de suite par une intervention sur 1 Pierre, préparée par Anne et Isabelle, et interprétée par Isabelle et Michael.
Question. Lorsqu'on vous demande de vous présenter, par quoi commencez-vous? Vous dites votre nom, prénom, votre âge, ce que vous étudiez, d'où vous êtes originaire. Il y a donc plusieurs façons de se présenter. De même, Pierre utilise plusieurs images pour décrire l'identité du chrétien.
Nous allons lire les 12 premiers versets de 1 Pierre 2. Rejetez donc toutes les formes de méchanceté et de ruse, l'hypocrisie, la jalousie et toute médisance. Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut, puisque, comme dit l'Écriture, vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Il est la pierre vivante que les hommes rejetaient mais que Dieu a choisie et à laquelle il attache une grande valeur. Approchez-vous donc de lui, et puisque vous êtes vous aussi des pierres vivantes, édifiez-vous pour former un temple spirituel et pour constituer un groupe de prêtres consacrés à Dieu, chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. Voici en effet ce qu'on trouve dans l'Écriture à ce sujet. J'ai choisi une pierre de grande valeur et je la pose en Sion, à l'angle de l'édifice. Celui qui met sa confiance en elle ne connaîtra jamais le déshonneur. Pour vous donc qui croyez, l'honneur, mais pour ceux qui ne croient pas, la pierre rejetée par les constructeurs est devenue la pierre principale, à l'angle de l'édifice, une pierre qui fait tomber, un rocher qui fait trébucher. Parce qu'ils refusent de croire à la parole, il leur arrive ce qui était prévu pour eux, ils tombent à cause de cette pierre. Mais vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré, pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Car vous qui autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'étiez pas au bénéfice de la grâce de Dieu, vous êtes à présent l'objet de sa grâce. Mes chers amis, vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires, des hôtes de passage. C'est pourquoi je vous le demande. Ne cédez pas au désir de l'homme livré à lui-même, ils font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des païens. Ainsi, dans les domaines même où ils vous calomnient en vous accusant de faire le mal, ils verront vos bonnes actions et loueront Dieu le jour où il interviendra dans leur vie.
Pierre écrit cette lettre pour encourager les chrétiens vivant loin de chez eux. Vivre leur foi au quotidien, loin du foyer chrétien et de la ville sainte, ne devait pas être chose facile. En plus d'être incompris, leur voix contre-courant pouvait effrayer les gens autour d'eux et mener à des persécutions. Du coup, Pierre prend le temps d'une piqûre de rappel sur la continuité du salut, annoncé dans l'Ancien Testament, promis pour le futur, et déjà en partie vécu, pour ensuite rappeler les impératifs de la vie chrétienne avant de les encourager à la persévérance.
Premièrement, le texte dit « Christ est la pierre vivante et nous sommes des pierres vivantes. » Qui dit pierre, dit aussi maison, donc édifice solide. En même temps, la vie indique une croissance, un développement harmonieux. Donc, nous sommes des pierres vivantes. Deuxièmement, l'Église est comparée à un groupe de prêtres consacrés à Dieu. Chacun de nous est chargé de lui offrir des sacrifices spirituels, c'est-à-dire de s'offrir soi-même. Louer Dieu, permettre au Saint-Esprit de transformer notre vie. C'est ce qu'il dit dans Romains 12, verset 2. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Ne pas se laisser modeler par le monde actuel, c'est faire la différence. C'est donc normal de penser et d'agir différemment des autres. Ainsi, nous sommes des pierres vivantes et des prêtres chargés de lui offrir des sacrifices spirituels. Troisièmement, nous sommes une nation, un peuple choisi par Dieu, élu par Dieu. Ce n'est pas à prendre à la légère. C'est quelque chose d'exigeant qui marque aussi la différence avec le monde. Donc, nous sommes des pierres vivantes, des prêtres, et maintenant, nous sommes un peuple élu par Dieu. Quatrièmement, nous sommes des résidents temporaires dans ce monde, des hôtes de passage, nous sommes donc sur terre pour un peu de temps, nous sommes citoyens du royaume des cieux. C'est alors à nous de nous tourner vers des autres pensées, vers notre véritable demeure pour nous constituer un trésor inaltérable dans le ciel. Résistons à l'attraction des convoitises mondaines. À quel aspect du monde suis-je encore attaché? Et puis, qu'est-ce que attaché? Qu'est-ce qui, dans ma vie, fait que je me conforme trop au monde? Demandons au Seigneur de nous aider à nous conformer à sa parole et non au monde. Alors, quelle est notre identité? Nous sommes des pierres vivantes, des prêtres, un peuple élu et des citoyens du ciel.
Tous ces aspects impliquent de notre part une bonne conduite, pour notre propre santé spirituelle, mais aussi pour maintenir un témoignage cohérent et efficace face aux non-chrétiens. Rejetons donc toute forme de mal. Attention à ne pas nous habituer au compromis. Après tout, existe-t-il de petits péchés? Pratiquons le bien et pratiquons-le, quel que soit notre état d'esprit, quelle que soit la situation ou les personnes. Osez aussi pratiquer le bien, pas seulement quand c'est facile, mais aussi quand c'est difficile, quand ce ne sera pas forcément bien vu ou accepté. Soyons prêts à souffrir en faisant ce qui est juste, ce qui est dit au verset 14. Nous sommes en effet la lumière qui doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que nous faisons et qu'ils en attribuent la gloire à notre Père Céleste. Comment faire pour mieux rayonner au quotidien? Petite remarque, pour pouvoir rayonner parmi les incroyants, il faut les côtoyer, faire des choses avec eux. Sinon, forcément, ils ne risquent pas de voir ce rayonnement. Être une lumière de Dieu, toujours et partout, paraît être vraiment mission impossible. Mais avec Dieu, tout est possible. Confions-nous en lui et demandons-lui de nous aider.
Nous allons maintenant lire les versets 13 à 17. Pour l'amour du Seigneur, soumettez-vous à vos semblables, qui sont des créatures de Dieu, au roi qui détient le pouvoir suprême, comme à ses gouverneurs chargés de punir les malfaiteurs et d'approuver les gens honnêtes. Car voici ce que Dieu veut, c'est qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence toutes les calomnies portées contre vous par les insensés et les ignorants. Vous agirez ainsi en homme libre, sans faire pour autant de votre liberté un voile pour couvrir une mauvaise conduite, car vous êtes des serviteurs de Dieu. Témoignez à tout homme le respect auquel il a droit, et même vos frères en la foi, révérez Dieu, respectez le roi. Même si nous sommes dans ce monde comme des résidents temporaires ou encore des hôtes de passage, il ne faut pas pour autant agir inconsciemment. Avant de faire pleinement partie du royaume de Dieu, les chrétiens vivent dans ce monde. Ce monde, tout comme l'être humain, est encore entaché de péché, et il leur faut donc apprendre à faire la part des choses. Une grande difficulté aux destinataires de la lettre, comme pour nous, c'est de réussir à respecter ce que le Seigneur a créé et établi sans pour autant se rendre complice du mal. Souvent, on peut comprendre l'autorité comme une prise de pouvoir et d'influence sur notre vie. Notre réflexe, c'est vouloir y échapper. L'homme a donc une bataille interne à mener, mais pas seulement. Il y a les relations publiques qui vont le confronter à de fausses accusations. N'oublions pas l'exemple qui nous est demandé de suivre. L'autorité qui prime est celle de Dieu, celle de Christ. Les autorités en place dans ce monde ne sont pas forcément, en tout cas en France, en contradiction avec ce qui est dit ici, et Dieu a bien permis ce cercle hiérarchique. C'est donc qu'il n'est pas contre tant que cela reste en accord avec la foi. Dès lors, on ne doit pas se dire que notre appartenance à Christ nous empêche de se plier aux dirigeants de ce monde. La question c'est plutôt, pourquoi se soumettre? On peut trouver la réponse au verset 13. C'est pour Dieu. Obéissons aux personnes ayant une autorité sur nous, les parents, les professeurs, les autorités, tous les dirigeants qu'on pourrait avoir, tout en nous rappelant l'exemple de Jésus soumis et aux autorités dans son temps, et surtout à Dieu.
Nous allons maintenant lire les versets 8 à 17 du chapitre 3. Enfin, visez tous le même but, partagez vos peines, aimez-vous comme des frères et des sœurs, soyez bons, soyez humbles. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure. Répondez au contraire par la bénédiction, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin de recevoir vous-même la bénédiction. Car celui qui veut aimer la vie et voir des jours heureux doit veiller sur sa langue pour ne faire aucun mal par ses paroles et pour qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Qu'il fuit ce qui est mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix avec ténacité, car les yeux du Seigneur se tournent vers les justes. Il tend l'oreille à leurs prières, mais le Seigneur s'oppose à ceux qui font le mal. D'ailleurs, qui vous fera du mal si vous vous appliquez avec zèle à faire ce qui est bien? Et même s'il vous arrivait de souffrir parce que vous faites ce qui est juste, vous seriez heureux. Ne craignez pas les hommes, ne vous laissez pas troubler. Reconnaissez dans votre cœur le Seigneur, c'est-à-dire le Christ, comme le Saint. Si l'on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêt à la défendre avec humilité et respect et veillez à garder votre conscience pure. Ainsi, ceux qui disent du mal de votre bonne conduite, qui découle de votre consécration au Christ, auront à rougir de leur calomnie. Car il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. Dans cette lettre, Pierre ne nie pas qu'à cause de la foi, les chrétiens peuvent subir souffrance et opposition de la part de leur entourage. Au contraire, il rappelle que ce n'est pas sans raison et que ce n'est pas définitif. Ce qui doit les faire tenir bon, c'est tout simplement l'espérance qu'ils ont, cette espérance du salut dont ils peuvent déjà jouir en partie dans le présent. Face à la calomnie, l'injure, la violence physique et le rejet social, les chrétiens sont appelés à ne pas faiblir et à se rappeler leur situation face à Dieu et dans le monde. Ils doivent rester fermes, puisque même ces souffrances sont un privilège par motif de conscience envers Dieu. Au verset 13 du chapitre 1, l'espérance était déjà rappelée comme impératif de la vie chrétienne. Mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. Il est mention de bénédictions qu'on est censé souhaiter pour les autres, et quelle merveilleuse promesse aussi que ce rappel. Les oreilles du Seigneur sont attentives aux prières du juste. Pierre nous exhorte, soyez toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Que nos paroles ne changent pas de sens suivant notre interlocuteur. Au contraire, soyons honnêtes et assumons notre foi et notre espérance. Ne médisons pas, mais prions. N'oublions pas qu'assumer son espérance, ce n'est pas l'imposer aux autres, à n'importe quel prix, mais il ne faut pas pour autant en avoir peur ou honte. Et d'ailleurs, pourquoi aurions-nous peur du rejet et de la honte? Non seulement Jésus, premièrement, les a déjà vécus pour nous libérer, mais deuxièmement, pourquoi notre espérance proclamée serait-elle forcément synonyme de rejet ou de difficulté? Après tout, nous ne rejetons pas nos amis parce qu'ils ne croient pas en Dieu, mais en l'astrologie par exemple. Alors pourquoi avons-nous peur qu'ils fassent l'inverse?
En tant que peuple de Dieu, nous devons nous opposer au péché et garder un comportement intègre. Bien que dans le monde, nous sommes forts de cette espérance de n'y être que passagers. Et n'oublions pas que pour pouvoir témoigner parmi les personnes non chrétiennes, nous devons bien d'abord en côtoyer. Nous devons donc pas rester dans notre coin.
Terminons donc cette réflexion en lisant les versets 18 à 25 du chapitre 2. Serviteurs, soumettez-vous à votre maître avec tout le respect qui lui est dû, non seulement s'il est bon et bienveillant, mais aussi s'il est dur. En effet, c'est un privilège que de supporter des souffrances imméritées par motif de conscience envers Dieu. Quelle gloire y a-t-il, en effet, à endurer un châtiment pour avoir commis une faute? Mais si vous endurez la souffrance tout en ayant fait le bien, c'est là un privilège devant Dieu. C'est à cela que Dieu vous a appelé, car le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple pour que vous suiviez ses traces. Il n'a commis aucun péché, ses lèvres n'ont jamais prononcé de mensonge. Injurié, il ne ripostait pas par l'injure. Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace, mais remettait sa cause entre les mains du juste juge. Il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps, sur la croix, afin qu'étant mort pour le péché, nous menions une vie juste. Oui, c'est par ses blessures que vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais à présent vous êtes retournés vers le berger qui veille sur vous.
Maintenant, pour digérer cette petite méditation, nous vous proposons un chant GBU Musique qui est très beau et je vous invite vraiment à écouter les paroles. Ça s'appelle « Ma grâce te suffit ».
Quand les soucis de la vie ont une couleur d'infini, dépassés par la folie, j'en oublie Jésus-Christ. Sa grâce me suffit. Seigneur, j'ai maintes fois prié que toutes mes difficultés soient pour toujours éloignées, mais tu m'as expliqué, ma grâce te suffit, ma puissance. De ta faiblesse. afin que mon orgueil meure, que chaque jour à chaque heure, ta grâce soit tout mon bonheur. Ma seule fierté, Seigneur, ta grâce me suffit.
Dans cette émission, nous voulons donc nous lancer le défi d'être des chrétiens ni assimilés ni sectaires, mais des chrétiens qui ont des relations équilibrées avec les autres. Et pour nous y aider, nous allons écouter deux interviews, et la première est celle de François.
François est un chrétien de 37 ans, il a été gébusien du groupe local de Nanterre dans les années 90, et il travaille maintenant dans l'administration de l'éducation nationale, justement à la fac de Nanterre. Dans son environnement de travail, pour témoigner, il y a une contrainte, la laïcité. Mais il y a aussi des avantages, notamment le fait qu'il a beaucoup de monde autour de lui, il a plus de 600 collègues. Il nous raconte donc son témoignage au travail. Cette interview est réalisée par Keith Butler.
En quoi consiste être témoin de Jésus dans ton travail ?
Alors, pour ce qui me concerne, il y a deux grands axes, deux éléments. Le premier, c'est pour moi être témoin de Jésus, c'est quelque chose qui essaye de se vivre avant tout par des actes, une manière d'être, tout spécialement au travail, où je pense que dans n'importe quel environnement professionnel, on a tendance à ne pas se faire de cadeaux, à régulièrement dire du mal quand même assez facilement des autres. Donc il y a possibilité, c'est vraiment un défi quoi de vivre une vie qui essaie de se conformer à la volonté de Jésus dans ce cadre spécifique du boulot. Donc c'est plus un témoignage par les actes. Bon, c'est aussi lié au fait que il y a cet environnement spécifique avec la laïcité, mais je pense que de toute façon, même si j'étais dans une entreprise privée, si je passais mon temps à faire des prédications à mes collègues, je pense que le patron ne serait pas trop fanat de mon travail. Donc c'est un peu valable pour tout le monde, mais tout spécifiquement pour nous qui sommes dans la fonction publique. J'essaie de faire ça par les actes. Ça, c'est le premier axe. Et puis le deuxième axe, c'est je suis pas très persuasif de moi-même lorsque je pars dans des discours. Donc le deuxième axe, c'est surtout d'essayer d'amener les gens à se confronter à la parole de Dieu, parce que je crois que vraiment la parole est beaucoup plus efficace que ce que moi je peux dire. Donc généralement, je m'interdis pas quand même de rentrer dans des discussions avec des collègues, notamment sur le temps de midi, mais j'essaie de les inciter, de les intéresser à l'enseignement du Christ et leur dire pourquoi pas tenter par vous-même d'ouvrir la parole. Maintenant, après, ça dépend aussi quel type de collègue on a en face de soi. Il y a des gens pour qui on suppose qu'ils vont avoir une certaine aisance à utiliser la lecture par eux-mêmes sans problème. Cela dit, j'ai aussi pas mal de collègues qui sont plus distants vis-à-vis de la lecture, qui sont moins à l'aise dans tout ce qui est lecture, etc. Ouais. Donc avec eux, c'est plus des discussions, quoi. Mais mes axes, moi, c'est essayer de témoigner par une vie qui tente de ressembler à ce que le Christ attend et inciter les gens à rencontrer Dieu en ouvrant la parole et en l'écoutant.
Est-ce que je peux te demander comment est-ce que c'est parfois difficile de vivre une vie qui plaît à Dieu au travail, au contraire de tes collègues qui ne connaissent pas? Ils ne connaissent pas Jésus.
C'est une question, je pense aussi, d'émulation. Lorsqu'on est à l'église, on a autour de nous des gens qui sont... on trouve toujours voilà, plus exemplaires. Donc, ça, c'est des gens qui vont nous tirer vers le haut. Maintenant, sur un plan spirituel, bah, par définition, dans le monde professionnel, on croise rarement, enfin surtout en France, on croise rarement des chrétiens. Donc sur un plan spirituel, les gens ne vont pas spécialement nous tirer vers le haut. Donc là, l'émulation, ben, c'est à soi de prendre les devants, de vraiment vouloir, même dans les petits détails, chercher à être fidèle à ce que le Seigneur attend de nous et puis se poser la question, ben voilà, si Jésus était confronté à ce problème, que ce soit vis-à-vis des personnes extérieures, enfin nous on ne parle pas de clients, mais bon, vis-à-vis des usagers du service public, ou alors que ce soit avec mes collègues, comment est-ce que lui il aurait réagi? Et donc là c'est nous qui devons être leaders dans cette manière de faire, et puis on est quand même très isolés, hein, parce que moi c'est vrai que à ma connaissance, moi je... pas le Seigneur, hein, je peux pas sonder les cœurs de mes collègues, mais à ma connaissance, voilà, je suis le seul chrétien dans mon service. Donc, voilà, quoi, c'est à soi-même de, en s'aidant de la parole le matin avant de partir, pour un peu se donner du courage et se souvenir qu'on n'est pas seul, quoi, parce qu'il y a le Seigneur. Mais voilà, c'est comme ça qu'il faut y aller. Donc, c'est quand même, il y a ce défi, c'est plus difficile. Et puis aussi, il y a le défi d'être vraiment très longtemps dans la journée confronté aux collègues. Donc, c'est difficile de mentir, ouais, sur ce qu'on est vraiment. Ouais. Surtout qu'on est confronté à des situations parfois de conflit, de difficultés. Et donc, ce n'est pas comme aller à l'église le dimanche. C'est un sermon, être là, tout rempli, avec en plus des gens qui sont plutôt... qui font preuve de douceur, etc. Bon, là, c'est différent. Et puis, ça dure 5 jours. Ça dure sur de 8h jusqu'à 18h30, pour ce qui me concerne. Donc, bon, c'est ça la difficulté, quoi. C'est difficile, mais je pense que l'un des grands pièges, c'est vouloir aussi donner aux autres une image qui n'est pas vraiment la nôtre. Donc, quand il y a des conflits et tout ça, ben, je sais que bien souvent, je déçois le Seigneur et mon attitude ne reflète pas ma foi. Mais je pense que ça, il faut l'accepter. Parce que sinon, en fait, on devient forcément un peu schizophrène et hypocrite. Et par contre, ce qu'il faut, c'est après aussi savoir aller dire aux collègues, ben là, j'ai mal réagi. Voilà. Et ça, c'est pas facile. Demander pardon. Voilà. Ouais. Mais c'est plus là que se fait la différence. Parce que après, au quotidien, bien souvent, on a des attitudes qui sont très proches de celles du collègue non chrétien.
Merci, François. Et alors, tes collègues au travail, ils te voient comment ?
Ben, pour la plupart, ils savent que je suis chrétien. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'ils mettent derrière cette appellation. Et puis après, bon, ça dépend des collègues. Hein. Il y a des collègues qui sont de simples... connaissances qu'on croise, et puis il y en a d'autres qui sont devenus au fil des ans des amis. Et en plus, là, dans le service dans lequel je me trouve, ça fait quand même 9 ans que je suis dans ce service, donc y a certains collègues avec qui j'ai pu établir des relations réelles, authentiques, profondes, et puis bah, pour certains, c'est vraiment devenu des amis, quoi. Et donc avec eux, bah, on a pu échanger, j'ai pu partager, et puis... voilà, quoi, c'est vraiment des relations qui désormais sont beaucoup plus profondes, et aussi dans ce domaine-là. Donc eux, ils savent vraiment, en gros, quel est le contenu de ma foi. Et, j'ai quand même eu le temps, en 9 ans, de leur parler de l'Évangile.
Génial. Et en tant que témoin au travail, est-ce qu'il y a eu des encouragements? Seulement des déceptions?
Bah, des résultats, en tout cas visibles, aucun. Donc, je continue à prier pour notamment deux de mes collègues, plus spécifiquement, quoi, qui sont vraiment des amis. Mais non, il y a plutôt souvent un sentiment de tourner en rond, revenir sur des discussions qu'on a eues parfois plus d'une bonne dizaine de fois. Et puis, et bon, c'est là où je reviens sur cet axe de les inciter à aller lire la parole. Quoi. Ouais. Parce que pour en tout cas ceux qui sont vraiment proches, j'ai l'impression d'avoir dit tout ce que j'avais à dire. Donc, de toute façon, voilà, ce qui me reste à faire, c'est essayer d'avoir un témoignage vivant de par ma vie avec eux. Et puis, voilà, aussi accepter que c'est le Seigneur qui agit en son temps, en son heure, et puis surtout selon sa volonté. Donc, voilà, quoi, je prie pour eux. Et voilà, mais ouais, c'est, voilà, faut accepter. Nous, on a toujours cette tendance, je crois. Et notamment quand on arrive dans un service, de se dire « Ah ben, le Seigneur, il va sans doute vouloir sauver un tel, un tel, un tel, mais nos choix ne sont pas les mêmes que ceux du Seigneur. » Et donc, voilà, quoi. Après, je crois qu'on fait ce à quoi il nous appelle. Et puis après, il faut avoir l'humilité d'accepter de s'en remettre à lui et puis de le laisser décider de ce qu'il veut faire dans la vie des collègues, quoi.
Ce que j'apprécie dans ce témoignage, c'est que François n'est pas un super-héros qui a réussi à convertir la plupart de ses collègues de travail, mais c'est plutôt un témoignage qui est réaliste. Réaliste parce que François, c'est quelqu'un normal qui essaie de suivre Jésus, qui essaie d'être un bon ami avec ses collègues de travail, qui veut que ses collègues de travail soient sauvés, mais qui n'a pas encore totalement des résultats. Et je trouve ça vraiment super parce que on est tous un petit peu comme ça. On a tous des connaissances et même surtout des amis à qui on aimerait bien parler de la foi de manière claire, on aimerait bien leur présenter l'évangile en 2 secondes et demie et que ces amis le comprennent et que les amis nous demandent « mais qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé ?» et on aimerait être à leur baptême 2 semaines après. Mais ça se passe très rarement comme ça, il y a souvent des contraintes, nos amis n'ont pas du tout le même rythme que nous. Et je trouve vraiment que la vie de François est assez symptomatique de notre vie à nous. Ce qu'on a à faire, c'est prier pour que nos amis, ceux qui nous voient vivre, soient touchés par notre témoignage. Et quand on fait ça, en plus, on ne sait même pas ce que nos amis pensent de nous, on ne sait même pas comment ils nous voient. Et je trouve ça vraiment intéressant.
D'ailleurs, on a la même chose dans la Bible. Si on prend l'exemple de Joseph, le fils de Jacob et du prophète Daniel, ni le Pharaon pour ce qui est de Joseph et ni Nabucodonosor, Balthazar ou Darius le Mède pour ce qui est de Daniel ne sont devenus juifs. Aucun des quatre a laissé tomber les idoles et aucun des quatre a rendu gloire au Dieu unique. Donc on pourrait avoir une première impression un peu d'échec. Cependant, pour Joseph, son intégrité dans le travail qui lui a été confié, dans l'éthique et dans sa foi, lui a permis non seulement de grimper dans l'échelle sociale et de devenir le big boss de l'Égypte, mais aussi de réaliser le plan de Dieu, puisque finalement, à la fin de l'histoire, il va sauver ses frères et sa famille de la famine. Mais on se doute qu'entre le temps où il est arrivé en Égypte et le temps où il a sauvé ses frères, il a dû trouver le temps long. Ça pouvait être un sentiment d'échec, mais finalement, c'en était pas un. Et puis si on prend l'exemple de Daniel, son obéissance à Dieu, aux préceptes qui lui avaient été enseignés dans son enfance, lui a permis d'être utilisé par Dieu pour que Dieu se révèle aux Babyloniens, qu'il puisse faire comprendre aux Babyloniens qu'il était un Dieu qui protège son peuple, qu'il était un Dieu qui dirige l'histoire.
Mais peut-être que vous vous dites, mais moi je ne suis pas comme Daniel, je n'ai pas reçu des révélations absolument extraordinaires, et puis je ne suis pas allé dans une fosse au lion ou dans une fournaise et j'en suis pas ressorti vivant. Et je pense que vous avez raison. Mais vous avez des révélations qui sont pas mal non plus dans la Bible. Et je vous rappelle que la Bible dit des choses absolument fondamentales sur le cœur de l'homme, sur les tendances qu'ont les humains à faire le mal. Et ça peut vraiment parler à nos contemporains. Donc vous avez aussi de très importantes révélations à faire à votre entourage. Et toutes ces révélations se trouvent dans la Bible, notamment en ce qui concerne le pardon, par exemple. Et au niveau des miracles, bien sûr, vous n'êtes pas appelé à aller dans une fosse au lion ou dans une fournaise de feu. Mais par contre, vos amis, vos collègues vous voient vivre au jour le jour et vous voient croire en Dieu, lui faire confiance malgré toutes les situations que vous traversez. Et ça, c'est un témoignage absolument merveilleux. Bien sûr, même s'ils sont impressionnés par votre attitude, ils ne vous le diront pas forcément. Mais sachez quand même que vous êtes regardés et que votre manière de vivre votre foi, votre relation avec Dieu, ne laissera personne indifférent, soyez-en sûrs, surtout si vous priez en même temps. Voici maintenant le temps d'écouter un second entretien, c'est celui de Aude.
Aude est une jeune femme diplômée depuis peu, depuis cet été, et donc depuis septembre, elle est ingénieure agronome en Île-de-France. Elle est d'éducation plus ou moins catholique et elle a rencontré les GBU lors du camp national de formation de 2009, le camp À fond la forme. Dans cet entretien, elle nous raconte sa rencontre avec les chrétiens, avec la Bible et avec Jésus. Bonjour Aude.
Bonjour.
Aude, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu en étais dans ta vie spirituelle avant de participer au camp À fond la forme ?
Je revenais d'un voyage aux Pays-Bas, donc où j'ai fait une année d'études en master. Et j'ai rencontré des chrétiens qui travaillaient pour l'IFES. Et j'étais venue à certaines de leurs réunions où ils permettaient de comprendre qu'est-ce que c'était que la vie chrétienne, à travers la Bible. Donc ils invitaient des étudiants qui venaient un peu de partout, qui étaient croyants ou pas. Et donc au départ, je venais plus pour ma connaissance intellectuelle, de rencontrer qu'est-ce qu'est Dieu, qu'est-ce qu'est Jésus, qu'est-ce que c'est qu'être chrétien. Et donc j'ai pu découvrir la Bible par eux, donc j'ai pu la lire, j'ai pu poser vraiment toutes les questions que je voulais, sans tabou, alors que j'y croyais pas vraiment. Et j'ai vraiment apprécié que malgré le fait que j'étais pas croyante, ils étaient prêts à répondre à toutes mes questions et que c'était pas forcément un frein. Et tout le long de l'année, donc j'ai participé à différents de leurs événements, donc des week-ends, des concerts, aller à l'église ensemble. Bref, au fur et à mesure, la parole commençait à devenir de plus importante pour moi dans ma vie quotidienne. Et quand j'ai dû rentrer en France, j'étais un peu triste de quitter ces échanges et j'avais vraiment besoin de connaître encore un peu plus la Bible.
Ouais.
Et surtout de la découvrir en français parce que j'avais dû faire tout ça en anglais. Donc on m'a parlé du GBU je suis allée sur leur site et j'ai essayé de voir qu'est-ce qu'était que le GBU. Et j'ai vu qu'il y avait un camp et j'avais jamais fait de camp chrétien dans ma vie. Et donc là, j'étais vraiment curieuse de rencontrer des étudiants qui partagent la même foi, qui vont parler de la Bible. Donc c'était le Lévitique qui avait été développé durant ce camp. Et j'étais vraiment excitée, joyeuse de pouvoir rencontrer des gens qui partagent la même foi que moi. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivée au camp GBU.
Et comment tu as vécu ce camp ?
Plutôt très très bien. pas vraiment déçue. Je me suis vraiment sentie comme chez moi. Alors qu'au départ, j'aurais pu me sentir mal à l'aise puisque j'avais plutôt reçu une éducation catholique plutôt que protestante, mais ça n'a pas du tout été un frein. Les gens sont montrés vraiment très ouverts et moi j'étais aussi ouverte aussi à discuter, à parler, à échanger. Et on avait vraiment tous ce point commun central qui était de connaître Dieu à travers la Bible. Donc j'ai pu retrouver la même liberté que j'avais aux Pays-Bas, donc échanger sans tabou là-dessus. Quelques nouveautés aussi par rapport aux Pays-Bas, c'était de découvrir la méthode de lecture de la Bible proposée par le GBU et par d'autres peut-être. Donc d'abord observer le texte, l'interpréter, puis ensuite l'appliquer dans la vie courante. Donc cette méthode m'avait beaucoup séduite et je la trouvais très pertinente parce que ça permettait vraiment d'essayer de capter le sens principal du texte. Parce que certes, j'avais appris que la Bible était disponible à tous, tout le monde pouvait la lire, mais qu'il fallait aussi la lire dans un certain contexte, avec certaines règles, et pour qu'on se trompe pas et qu'on ait tous les éléments. Donc ça, c'était vraiment bien. Et vraiment de faire marcher son intelligence pour comprendre le sens du texte. Et la deuxième chose, en étudiant un livre de l'Ancien Testament, c'était de voir à chaque fois cette cohérence qu'il y avait entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament que je ne connaissais pas, et vraiment voir le plan de Dieu à travers Jésus. Ça aussi, c'était bien. Et surtout de comprendre encore plus comment Dieu nous avait sauvés, par nos œuvres, mais par grâce. Et donc, ça aussi, c'était vraiment important de l'avoir appris, je pense, lors de ce camp.
Et quel rôle est-ce que les gens ont joué dans ce camp ?
Pour moi?
Ouais.
Bah, ce qui était un peu primordial pour moi, c'était de voir qu'ils croyaient vraiment en ce qu'ils disaient, que c'était vraiment du vrai pour eux, la parole et son application, et que c'était pas du superflu, quoi, que c'était pas juste se dire de bonnes choses, et puis voilà, qu'il y avait vraiment une vraie raison derrière, et que ça se voyait vraiment dans leur comportement et dans leurs actions. Donc j'entends là le respect, l'amour d'autrui de manière totalement gratuite et non préméditée. Et vraiment de voir la cohérence entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, et qui me manquait cruellement dans le milieu chrétien que je côtoyais avant, quoi. Et surtout cette démarche humble de mettre toujours, quand ils sont face à un événement, de l'écriture, la parole du Seigneur, et de voir comment faire, et toujours être humble devant... face au Seigneur qui pour eux est tout-puissant et veut leur bien. Et ça, je trouvais ça bien comme démarche, et je pense qu'il est beaucoup plus solide par rapport à essayer de juger les situations de la vie par seulement ses sentiments, sa philosophie du moment, sa conception des idées à l'instant T. Et en cela, je trouvais que le message qui était dit à travers ces chrétiens, c'est que c'était vraiment un message vrai et pas du tout une propagande, parce qu'elle était tellement humble, qu'elle ne cherchait pas à être mieux que les autres, mais vraiment à être droite et correcte par rapport à ce que le Seigneur nous avait à nous enseigner dans la Bible, que ça ne pouvait pas faillir. Et donc c'était ça qui m'intriguait, donc qui me donnait encore plus envie de découvrir ce que Dieu pouvait m'apporter, et que Dieu pouvait m'aider encore plus efficacement dans ma vie de tous les jours et à m'en sortir.
Et pour terminer, Aude, est-ce que tu pourrais juste nous dire ce qui s'est passé le dernier soir du camp ?
À la fin du camp, j'ai décidé d'accepter que Dieu fasse partie de ma vie. Je lui fais confiance et j'ai envie de le suivre au quotidien. Et j'ai vraiment mis pleinement ma confiance en la Bible et en ce qu'elle peut nous apporter et en quoi elle m'édifie tous les jours. Et surtout en ce que Jésus a fait pour nous et ce qu'il fera encore.
Merci beaucoup.
Moi, ce que j'ai envie de dire après ce témoignage, c'est venez au camp à fond la forme. C'est vraiment super. Vous allez y apprendre plein de choses, et ça va vraiment vous être utile pour toute votre vie chrétienne. Mais la deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est que normalement le camp à fond la forme n'est pas fait pour les non-chrétiens. Donc c'est pas un lieu normalement où on se convertit. Normalement c'est un lieu où on apprend plein de choses sur la Bible, plein de choses sur le GBU. Et c'est un lieu où on peut devenir un meilleur GBUcien, entre guillemets, un GBUcien plus accompli. Mais sinon, venez au camp à fond la forme.
Et ce témoignage annonce une super bonne nouvelle pour le GBU, c'est que les GBUciens sont humbles. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout le témoignage de Aude par rapport aux gens tournait autour du fait que l'humilité vis-à-vis d'elle, qui pensait différemment, et vis-à-vis de la Bible, l'avait vraiment frappée. Et c'est vraiment une bonne nouvelle de savoir qu'on donne cette image-là, que ce soit les GBUciens ou les responsables. Et puis c'est intéressant aussi parce qu'on voit là que la clé dans le fait d'avoir une relation équilibrée avec les autres, c'est l'humilité. L'humilité qu'on a vis-à-vis des gens qui pensent différemment de nous, ça va nous éviter une attitude sectaire, une attitude arrogante où on va écraser les gens à coups de Bible. Mais l'humilité vis-à-vis de la Bible et de son message, ça nous évite de faire des concessions à l'Évangile et de commencer à nous assimiler aux personnes qui ne respectent pas les vérités de l'Évangile. Et c'est vraiment fort de se dire que si je travaille mon humilité, petit à petit... je vais commencer à avoir des relations plus équilibrées avec les autres.
Cette émission touche maintenant à sa fin, mais je sais que vous en voulez plus et nous allons vous en donner plus. Une prochaine émission avec d'autres témoignages sur le même sujet va vous être proposée très bientôt. Alors, à bientôt.
D'ici là, n'oubliez pas, détendez-vous, Dieu est souverain.